Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFAC 88.3, c'est le 9 jusqu'à 11h. Sarin, tu avais une première série que tu voulais, dont tu voulais nous parler aujourd'hui, La Plateforme 2. Film qui ne soulève pas les réactions positives du public. C'est le titre que tu lui as donné.
Exactement, j'ai regardé. Désolé, je ne sais pas si le micro est ouvert.
Ouais, là, maintenant,
là,
oui.
Maintenant, il est ouvert. Donc, c'est un deuxième film qui est sorti cet automne. Mais j'ai davantage parlé du premier film qui a vraiment été un succès, autant pour le box-office que le cinéma espagnol. Donc, La Plateforme, c'est un film espagnol qui est sorti sur Netflix en 2019. C'est un film qui est dirigé par Galder Gastelu Urrutia. Et c'est aussi le premier long métrage de ce directeur. Puis, tout au long du premier film, en tant que téléspectateur, on ressent aussi l'empreinte qui est laissée par David Dezola et Pedro Rivero, qui ont écrit le film. Et aussi, ça va être vraiment leur premier long métrage. Avant, on était plus dans des films courts-métrages, des films expérimentaux. Il y avait des mini-documentaires aussi, des mini-films qui étaient aux alentours de 35 minutes. Mais d'abord, La Plateforme, c'est quoi? C'est un système pénitentiaire du gouvernement qui a été instauré afin, je vais le mettre en gros guillemets qu'on ne voit pas malheureusement, d'alléger les sentences des détenus qui préfèrent la plateforme qu'à la prison. Parmi ces détenus, on vient à la rencontre du personnage principal, Goreng. Il va être joué par Ivan Massasagué. Et Goreng, il incarne la jeunesse. Il est naïf, il est plein d'espoir et de bonne volonté. Et ce jeune homme va partager sa cellule avec Trimagazi, qui est joué par Zorion Eguilior. Trimagazi, lui, en bon québécois, c'est un bon vieux de la vieille, et il connaît comment la plateforme fonctionne et l'exploite du mieux qu'il peut avec ses connaissances. Justement, Goreng se rend compte que la plateforme n'est pas une prison comme les autres. Regardant au mur, il aperçoit un chiffre. Ce chiffre indique à quel étage son compagnon Trimagazi et lui se situent. Au milieu de la cellule, on retrouve un énorme trou par lequel, en regardant en haut, on voit d'autres détenus. La même chose en regardant en bas, en plongeant le regard vers une noirceur qui semble être infinie. Arrivé à l'heure du repas quotidien, Goreng est dégoûté de voir le plateau de nourriture déjà entamé par les gens du dessus. Il va faire la grève de la faim. Trimagazi, lui, regarde Goreng et lui dit qu'ils sont chanceux de se retrouver à ce niveau et qu'ils feraient mieux de manger, ce que Trimagazi fait de façon assez barbare. Il rafle tout, même le vin. On peut déjà voir lors de cet événement un conflit de valeurs entre les deux personnages. L'un est révolutionnaire, il va être avide de savoir, il pose beaucoup de questions qui restent souvent sans réponse. L'autre est borné, il comprend les règles du jeu, il économise sa salive et ne fait pas confiance aux autres. Les règles de la plateforme sont simples. La personne détenue peut apporter un objet du monde extérieur. Par exemple, Goreng, de son côté plus intellectuel, va apporter un livre qu'il lit religieusement. Et Trimagazi, lui, ne se départit jamais d'un couteau qu'il aiguise et qui se sert pour manger, mais qui a aussi bien d'autres utilités. Si Trimagazi est peu bavard, il apprend tout de même à son compagnon de cellule que, selon lui, il existerait 200 étages à la prison et qu'en bas, c'est mieux de ne pas s'y retrouver. Une autre règle aussi consiste qu'à chaque mois, les prisonniers se réveillent à un étage différent, donc qui vont avoir une quantité, une qualité de nourriture qui va tout être aussi différente et c'est aussi de façon très aléatoire. Goreng apprend aussi par lui-même une règle lorsqu'il est temps de manger en tentant de conserver une pomme. La température de la pièce devient glaciale, sous le rire de Trimagazi, étant donné qu'il ne parle pas beaucoup. Goreng apprend qu'il ne peut pas manger de la nourriture que seulement au moment où la plateforme est à leur étage et qu'elle fait son chemin vers les étages du bas. Plus tard dans le film, on rencontre un autre personnage très important aussi et intéressant, c'est Imoguri, qui est joué par Antonio San Juan et qui a la responsabilité d'administrer les nouveaux détenus à la prison en prenant leurs informations personnelles sans toutefois ne pas connaître l'entièreté du système qui est la plateforme. Et c'est là aussi que je mets l'emphase sur Goreng qui a répondu à Imoguri lorsqu'il va questionner son plat favori. Il va dire « c'est l'escargot » et Scargota en espagnol. Et c'est aussi un nom par la suite que Trimagazi va appeler Goreng, il va l'appeler mon petit escargot, et ça devient un petit peu un petit peu farfelu dans ce sens-là. Par la suite, si Imoguri se retrouve elle aussi dans la plateforme accompagnée de son chien qu'elle choisit comme objet. Bien, sans tout révéler, c'est sûr que ça va entraîner des nouvelles difficultés puisque un chien, ça doit aussi manger et manger une fois par jour. Et on n'est pas sûr de manger non plus. Alors, c'est un personnage qui est très intéressant puisque c'est un agent de la prison puis ça représente ici un symbole de l'employé du gouvernement qui croit bien faire. De l'extérieur, elle croit réduire les peines, en plus de pouvoir manger son repas préféré à tous les jours. Mais cependant, à l'intérieur, c'est le paradis et l'enfer pour certains. On y découvre les facettes les plus sombres de l'être humain. Et c'est pour ça que je dis que aussi, le premier film, c'est un film très intéressant d'un point de vue social et politique. Il va aborder des termes comme le conflit intergénérationnel entre Goreng, qui cherche à tout prix de sortir de la plateforme en essayant notamment de former des alliances avec les autres détenus. Il y a aussi un fort dégoût et un dédain des pratiques de son colocataire de cellule, Trimagazi, en opposition. Trimagazi, lui, il doit être, c'est ça, dans la soixantaine, comme je mentionnais un peu au début, et n'a pas l'énergie, n'a pas le désir pour se battre, pour obtenir sa liberté. Avec la plateforme, il se rassasie des besoins qui sont largement comblés. Et je rappelle encore qu'il connaît très bien les rouages du système, du moins, il pense les connaître. Mm-hmm. Et c'est pour ça ici que le film va exploiter d'autres concepts tels que la justice et l'égalité, car en théorie, je rappelle que chaque prisonnier choisit volontairement d'aller à la plateforme en plus de pouvoir manger son plat favori. Donc la même chose à tous les jours, en théorie. Puis toutefois, à l'intérieur, on comprend que les gens commettent des abus, car si tous les détenus sont aussi avares de nourriture que Trimagazi, bien on comprend que le festin ne se rend pas jusqu'au dernier étage, l'étage le plus bas. L'égalité peut aussi être atteinte que si chaque prisonnier ne mange que son plat favori. Donc, pour Goreng, c'est quelque chose que lui, il a juste à manger ses escargots, mais on comprend qu'il ne va pas apparaître au début, au premier étage, donc il doit attendre à tous les jours son plat d'escargots, et ça vient te trotter dans la tête, parce qu'au début, tu sais, je vais être là, je vais manger des escargots tous les jours.
Mais en même temps, de ce que je comprends, il choisit aussi les escargots pour pas se faire voler sa bouffe. C'est pas le premier choix, mettons, comparé à genre une pointe de pizza.
Un poulet,
ouais. Un poulet rôti, ouais.
Tu fais un petit Uber à l'intérieur, là, mais c'est un peu ça. Puis le personnage, Goreng, veut aussi porter la justice qu'il incarne, car malgré son jeune âge puis son inexpérience dans la plateforme, qui est aussi appelé la fosse, c'est quelqu'un de très altruiste et qui va chercher aussi à ce que chaque détenu soit capable de manger son plat favori au travers de ça. Et je rappelle aussi, c'est un film qui fait bien un parallèle à la société actuelle avec les inégalités de l'extérieur. La plateforme semble être quelque chose de logique, de calculé, de pensé, mais on peut juste imaginer des détenus qui se trouvent au premier étage et qui, après avoir passé, disons un mot, au 150e étage, se retrouve avec un festin avec les plats favoris de tous les autres détenus. Bien, en revanche, les pauvres malchanceux qui se retrouvent au 150e étage n'ont plus rien à manger, ne serait-ce que des os ou des restants de vaisselle. Conséquemment, les films abordent des concepts plus sombres, comme le cannibalisme, le suicide, et comportent plusieurs scènes de violence graphique. On sait, dans les étages plus bas, la nourriture se fait rare. Il y a aussi des tentatives d'insertion de certains personnages pour aller vers les étages les plus hauts qui sont voués à l'échec. Bref, le premier film était bon et apportait une réflexion sur la nature humaine et le gouvernement, car c'est ça, dans le film, il y a un fossé énorme entre ce que les gens croient connaître et ce qui se passe réellement à l'intérieur de la prison. Et bien qu'il y a des limites de que les limites de la nature humaine soient mises en évidence par des gestes extrêmement extrêmes, en fait, comme le cannibalisme, ça dénature pas l'œuvre qui est une critique sociétale, soit du capitalisme ou du gouvernement, et on comprend, somme toute, le message avec une fin qui nous laisse sur plusieurs questions. Et c'est pour ça, la semaine passée, quand j'ai regardé La Plateforme 2, j'avais des attentes, et là, je ne vais pas en parler autant longtemps du deuxième film, parce que honnêtement, il y a vraiment moins de choses à dire aussi. Puis, comme beaucoup d'autres cinéphiles, je sortais avec beaucoup plus de questionnements qu'avant de pouvoir regarder le film, ce qui n'est pas vraiment normal, je trouve. Et j'avais beaucoup d'attentes, étant donné que le premier film a été un succès, un franc succès aussi, comme je rappelle, sur le box-office, qui a fait des bons scores sur les plateformes pour coter les films, notamment. Et la plateforme 2, bien, la première demi-heure du film, elle va bien se dérouler. On a une bonne mise en contexte, puis une présentation des personnages. On apprend dès le début que la règle est instaurée. Évidemment, les personnages vont s'opposer à cette règle. Parmi ces personnages, il va y avoir Perrempouane, qui est joué par Milena Smith. Il va aussi avoir Zamyatin, qui va être joué par Ovik Kocherian, et Saabat, qui est joué par Natalia Tena. On va moins un peu s'attarder à ces personnages-là parce qu'on s'y attache pas vraiment, puis il y en a beaucoup qui meurent aussi. Donc, Zamyatin, c'est un monsieur costaud qui va au début partager sa cellule avec Perrempouane. Saabat, c'est une femme brave, radicale. Elle croit connaître le moyen de sortir de l'enfer qu'est la plateforme. Et Perrempouane, c'est le personnage principal qui va aussi oser défier la règle. C'est donc alors que Saabat et Perrempouane se retrouvent tous les deux colocataires de cellules et veulent mettre fin à la règle. Alors, Saabat va apprendre à Perrempouane un moyen de comment sortir possiblement de la plateforme. Et ça va être un peu dit plus tard, mais comme on n'a pas vraiment de réponse à ça non plus dans le film. Et on apprend ainsi que la règle qui avait été instaurée, c'est que chaque individu doit manger son repas favori qui lui est décerné. Donc on répète un peu le même principe qui avait été établi lors du premier film. Ou sinon, de faire un échange établi avec les gens du haut. Donc il y a une discorde générale qui se crée déjà entre les prisonniers, entre les différents niveaux, les différents étages. Ils vont dire « Ah, mais t'as pas respecté la règle, t'as mangé le plat favori à quelqu'un d'autre. » On avait fait un échange, puis on sait que quand on mange un repas par jour et puis que c'est la seule chose qu'on a à faire dans cette prison,
c'est ça.
Ça mène aux bains de sang qui vont continuer et qui vont totalement, pour moi en tout cas, ça a vraiment brisé la ligne, le fil continu de l'histoire. Ça va juste être un énorme bain de sang entre les dissidents à la règle et les fidèles à la règle aussi, parce qu'il va y avoir des fidèles qui vont dire « Ben non, nous, on veut notre on veut notamment notre spaghetti, ouais, on veut notre hamburger, tout ça. » Et ça va être un véritable carnage, et c'est là que les deux personnages principaux vont partir sur la plateforme avec les bosses de lit dans leurs mains, partir à la chasse à ceux qui veulent pas leur obéir. C'est ça. Je pense que le film dure 1h30. Je disais la première demi-heure était assez cohérente, et après ça, on tombe vraiment dans un bain de sang. Et c'est ça. Pourquoi avoir fait un deuxième film? Il n'y a pas vraiment de concepts qui sont novateurs. La fin est même frustrante. Et c'est un peu pourquoi, après ça, je me demandais pourquoi le deuxième film, est-ce que c'est un publicity stunt, genre? Est-ce que c'est quelque chose qui était pour redorer l'image, parce que sur IMDb, la plateforme 2 a un score de 5 sur 10.
Ouais. Est-ce que le premier film justifiait d'en faire un deuxième, selon toi? Ou on peut ne pas écouter le deuxième et ça va être beau aussi?
Honnêtement, je crois que j'ai écouté le deuxième film il y a deux jours, puis je m'en rappelle moins que le premier film bon, que j'ai regardé il y a quelques années, puis que je suis capable d'en parler aussi. Mais c'est juste qu'on décroche. Puis c'est pour ça aussi, c'est pas des films que je conseille nécessairement à tout le monde, parce que des termes vraiment, c'est très graphique, c'est très
c'est sur Netflix, fait qu'ils peuvent s'en permettre un peu plus que si c'était à la TV traditionnelle. Mm-hmm. Mais de la manière tu le comptes, j'ai l'impression qu'ils ont fait un 2 parce que le premier avait bien été. Fait qu'ils sont, ils ont obligé les créateurs à faire un 2.
C'est ça. Puis
ce qui est arrivé une couple de fois quand même aussi dans l'histoire sur Netflix.
Quand on a des séries de films ou des fois des trilogies, c'est vraiment le coup d'argent. Puis je regardais aussi le casting par rapport au premier, les actrices, les acteurs. Il y en a qui sont méchants, mais c'est plus des modèles qu'il y a des acteurs, là, parce que le casting était bon dans le premier.
Mm-hmm.
C'est ça, il y avait vraiment une cohérence. Puis
plus
là,
réaliste.
C'était déjà plus réaliste.
Pour bien, ce que c'est la réalité là-dedans.
C'est
là. Mais oui, je comprends ce que tu
même
veux.
Même malgré qu'il y a des effets du surnaturel, parce que la plateforme, elle ne descend pas sur des roues. Là, mm-hmm, c'est littéralement
À flotte.
Puis ça, c'est une notion ici qu'on parle dans le deuxième film, c'est que l'aspect de la gravité, bien, c'est un peu l'aspect que les personnages vont essayer d'exploiter pendant leur sommeil, lorsqu'ils se font transporter dans un autre étage. Là, il n'y a plus de gravité. Mais ça, c'est pas vraiment expliqué non plus. Donc, c'est un peu ça, manque de constance. Puis ces termes-là, qui sont extrêmement importants pour comprendre le film, sont pas expliqués. Puis sont juste, ah, ben oui, c'est vrai, les gens flottent.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça.
Donc, c'était pas mal ça. Puis, c'est ça, c'est juste aussi par rapport au feedback, aux attentes qu'il y avait par rapport au premier film, parce que le premier film a quand même une cote de 7 sur 10 sur IMDb, puis mm-hmm. connaissant la communauté, aussi, ça a sûrement dû gagner des prix en Espagne. Ça a dû mettre aussi le cinéma espagnol sur la carte. Récemment, ici, il y avait eu la Maison de Papier.
Oui, c'est vrai. Il y a quand même quelques séries, films qui sortent... ça, là, je suis moins familier avec le cinéma espagnol. Mm-hmm. Il y en a bien d'autres, c'est sûr, mais c'est vrai que des succès populaires comme ça sur Netflix, notamment, ça fait en sorte qu'on va regarder peut-être un petit peu plus, tout comme les Squid Game a mis l'œil sur beaucoup de séries coréennes qui, soudainement, ont eu un regain de popularité sur Netflix, etc. Fait que si on peut leur donner ça, au moins à Netflix, et qu'ils font découvrir des affaires.
Exactement. Ben, c'est un peu ça aussi, la fin du point, que pour dire le deuxième était à regarder, mais je le conseille pas finalement. Mais mm-hmm. c'est sur Netflix, on a accès aussi à des œuvres de d'autres pays.
Ouais, voilà.
Il y a beaucoup de séries scandinaves ici, d'Islande.
C'est vrai, les séries
Norvège,
scandinaves.
On a aussi un éloignement par rapport à nos valeurs des fois, ou des choses qu'on est peut-être moins confrontés dans la vie de tous les jours, ou des réalités, des systèmes politiques, des fois qu'on prend pour acquis, puis là on voit, mettons, dans un système carcéral, par exemple, extrême dans ce film-là, on se fait « Oh my God, c'est... »
Et nous, du Québec, on a fourni fugueuse. C'est pas vrai. Il y a aussi 19-2 au secours de Béatrice. Il y a des vraies séries et fugueuse. Mais le 1, pas le 2. Le 2, c'est une vraie joke. OK! On s'arrête là. Merci, ouais, merci pour ça. Donc, la plateforme 1 et peut-être la 2, mais pas nécessairement. On s'arrête quelques instants sur les ondes de CFA 88.3.